mercredi 11 mars prochain, une journée dédiée aux soins palliatifs est organisée à Toulouse à l'appel de différentes associations dont l'ASP, Accompagnement Soins Palliatifs. C'est l'occasion pour nous ce matin de découvrir cette association et les motivations de ces 100 bénévoles de la région toulousaine qui interviennent souvent dans la plus grande discrétion auprès des personnes en fin de vie. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Revol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'ASP Toulouse. Bienvenue à vous. Vous êtes accompagnée de Dominique Dubot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bénévole. Vous l'êtes aussi, hein, je crois, Valérie. Hein. Vous êtes bénévole de l'association et vous coordonnez une équipe qui intervient à l'Oncopole.
Oui, tout à fait.
À l'Oncopole à Toulouse. Alors, nous sommes ensemble pour mettre un peu en lumière, les héroïnes du quotidien. Je ne sais pas si vous acceptez ce mot.
Non, pas forcément, Dominique. Parce qu'on ne se considère pas comme héroïne. En tous les cas, les héros, ce sont les patients. Voilà, vraiment.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que ce sont eux qui ont le courage, ce sont eux qui sont dans le quotidien à lutter contre la souffrance, contre leur peur. Et nous, on est on va à leur rencontre, mais à un moment donné de leur parcours. Donc.
Vous êtes là tout de même, vous êtes très humble. J'ai bien fait de préciser que vous interveniez en toute discrétion. Vous êtes là tout de même pour leur tenir la main. En tout cas, vous allez nous dire ce que vous faites auprès d'eux. Je me tourne vers vous, Valérie Revol, puisque vous présidez l'association. Vous en êtes là aussi bénévole. Vous êtes combien de bénévoles? Une centaine, c'est ça?
Nous sommes une centaine de bénévoles, ce qui représente une grosse association de bénévoles d'accompagnement.
Et vous intervenez dans quel établissement ici dans la région toulousaine?
Alors nous avons des conventions signées avec une douzaine d'établissements.
Ah oui?
Donc le CHU par exemple, pour l'Oncopole évidemment, dans le public. Et nous avons aussi des établissements privés comme la Clinique Pasteur, la Clinique d'Essai, la Clinique de l'Union, la Clinique Occitanie, la Cadenne.
Vous êtes un peu partout où il y a des personnes qui en ont besoin. C'est quoi la philosophie de l'association? C'est une association aconfessionnelle, il faut le préciser.
Oui.
Comment vous intervenez? Et apolitique. C'est quoi la philosophie?
La philosophie, tout simplement, si on pouvait la résumer, ce serait être là, être à côté, être avec. Ne pas abandonner la personne dans sa situation, dans son épreuve. Voilà. C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça. Ça a l'air si simple, mais ça ne doit pas être simple tout de même. Et comment est-ce que ça s'articule, cette présence avec l'hôpital? Comment est-ce que les malades vous sont signalés?
Alors oui, effectivement, nous sommes une équipe de bénévoles par établissement. Il n'y a jamais de bénévole tout seul qui intervient selon
pas
son propre chef,
libre.
Pas d'électron libre. Et puis, ce qu'il faut être en lien avec les soignants. Ce sont les soignants qui nous signalent les personnes à accompagner en fonction de leur état de santé du moment, de leur morale aussi, des tas de critères qui peuvent être utiles aussi pour nous, pour accompagner la personne au mieux.
Et alors ces personnes, ce sont donc des malades qui sont demandeurs, des malades qui sont seuls, qui ils sont?
Ces malades ne sont pas forcément demandeurs dans le sens où ils ne connaissent pas forcément notre accompagnement. Alors évidemment, on ne va pas jamais forcer l'accompagnement. On va toujours se présenter, demander, proposer. On peut être en capacité, bien sûr, d'avoir un refus d'accompagnement. C'est la première chose qui peut se passer. Mais
ça arrive,
bien sûr. Mais il s'agit simplement de proposer aux malades un temps de présence, d'accompagnement, de visite, de soutien, s'ils le souhaitent. Parce qu'on sait que la maladie, ça isole. On peut se sentir seul face à l'épreuve que l'on traverse, surtout dans une chambre d'hôpital, par exemple, qui ne rappelle que aux malades qu'on est malade, justement. Qu'il n'y a pas autre chose.
Oui, Dominique.
Oui, nous, c'est vrai qu'on n'a aucune obligation de résultat. Voilà, en tant que bénévole, c'est-à-dire à se dire, oh là, aujourd'hui, cet après-midi, il faut que je voie 4, 5, 6 malades obligatoirement. Certes, les soignants nous donnent des patients à voir en priorité, mais après, on fait en fonction aussi de ce qui se passe avec chaque patient. Et c'est important aussi, effectivement, que cette dimension du refus, c'est-à-dire que nous, ils peuvent nous dire non, soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils vont recevoir de la famille. Et...
C'est la dernière décision qu'ils peuvent poser dans ce contexte-là.
Oui, c'est ça. Ils sont, on va dire, plutôt obligés, entre guillemets, d'accepter les soins. Et là, nous, ils peuvent nous dire non. Donc, ils sont dans cette maîtrise de la vie. Voilà.
Je vous vois opiner, Valérie. C'est quelque chose d'important aussi?
Oui, je crois que nous sommes les seules personnes à qui ils peuvent dire non facilement.
Ouais.
Parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas dire non aux soins, ils ne peuvent pas dire non au plateau repas, au choix de la chambre, à la maladie. Ils n'ont pas choisi. Ouais. Ils n'ont rien choisi, finalement, de ce qu'ils vivent dans l'épreuve. Par contre, à nous, ils peuvent dire, bah non, j'ai pas envie de voir quelqu'un aujourd'hui.
Alors, vous nous dites que vous intervenez sur conseil de l'équipe soignante qui vous dit, monsieur ou madame, un tel a peut-être plus besoin que vous aujourd'hui. Je vais me tourner vers vous tout de même, Dominique, même si vous intervenez quand vous voulez aussi, Valérie. Vous êtes bénévole depuis 15 ans. Auprès de personnes en fin de vie, forcément, ça interroge. Alors, pardon, c'est pas déprimant?
Non, absolument pas. Non, absolument pas. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on accompagne des vivants. Voilà. On ne rentre jamais dans un service, dans une unité, dans une chambre, en se disant « Oh là, je vais voir quelqu'un qui va mourir ». Jamais. Donc, on est vraiment dans la vie. On est... on rit parfois dans les chambres, voilà. Et puis parce que ben voilà, les gens sont contents d'avoir un bol d'air, d'écouter quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et puis bon, vous dites déprimant, on a
c'est
aussi.
C'est pas un bénévolat comme un autre, c'est ce que je vous dis. Non. On n'intervient pas. C'est vrai, non?
Oui, c'est
Valérie.
Vrai. Mais je pense aussi, Dominique souligne effectivement qu'on peut avoir des moments très gais, très joyeux. On peut aussi avoir des moments qui sont plus difficiles, douloureux, parce qu'effectivement, c'est pas évident de confier ses peurs, ses inquiétudes. À qui peut-on les confier? C'est pas forcément aux proches, à la famille, que l'on veut protéger parfois, les parents auprès de leurs enfants ou les enfants auprès de leurs parents, ou simplement les proches qui sont pas en capacité, qui ne peuvent pas entendre que leur proche va mourir ou qui ne veulent pas l'entendre. Qui vont lui faire...
Vous avez des liens avec la famille?
Alors la famille, oui, c'est important. C'est important de l'écouter, c'est important de prendre du temps pour elle. Elle est en souffrance, oui. Elle a besoin aussi d'avoir ce soutien. Donc oui, nous prenons du temps pour eux.
Et elle est contente de savoir que vous êtes là. Alors Dominique, vous entrez dans la chambre, on entre avec vous dans une chambre pour bien comprendre, oui, en quoi consiste, oui, votre bénévolat. Vous voyez la personne allongée, admettons qu'elle ait envie et qu'elle soit capable, oui, de parler, c'est peut-être pas toujours le cas.
Non, c'est pas toujours le cas.
Comment, oui, ça se passe, vos entretiens avec cette personne?
Alors déjà, je me présente avec...
vous ne la connaissez pas forcément?
Non, pas forcément. Donc, si c'est une première fois, parfois on ne les voit qu'une fois. Donc en donnant le prénom et voilà, en disant qu'on est là pour leur offrir un petit peu de présence s'ils le souhaitent. Vraiment, j'insiste à chaque fois sur le fait que c'est eux qui décident s'ils le souhaitent. C'est une proposition. Et j'attends qu'ils m'invitent à m'asseoir. Voilà. Parce qu'on on rentre dans leur chambre, dans leur intimité, donc c'est comme si on rentrait chez vous. Voilà. Mmh. Et donc, une fois qu'on s'est assis, ben c'est... Il n'y a pas de recette, en fait. Hein. C'est très basé sur l'écoute, sur le fait de rebondir sur un mot, c'est une sorte de relation d'aide, si vous voulez. Hein. Donc, de redémarrer sur un de leurs mots. Et puis, souvent, c'est le silence, simplement. Voilà, c'est beaucoup d'écoute.
Vous restez combien de temps dans les chambres?
Alors, c'est très variable. Ça peut être... alors, 5 minutes, c'est quand vraiment juste le temps de faire un petit peu contact. Et puis, la personne vous dit « Non, je suis fatiguée ». Et puis ça peut être jusqu'à 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et quart. Voilà.
Ah oui, et c'est un bénévolat qui vous demande, quelle disponibilité vous demandez aux bénévoles?
Alors en institution, une demi-journée par semaine.
Ah oui, donc
oui, c'est ça, une après-midi, ouais, quoi. En général, c'est l'après-midi.
Donc, parfois, il y en a qui viennent le soir.
Et le soir aussi.
Ouais. Oui. Ou la nuit, ça peut arriver.
Ah oui,
dans les unités.
C'est quoi les questions qui viennent le plus souvent?
Ce ne sont pas forcément des questions, en fait.
Ce n'est pas forcément des
questions. Les gens ne posent pas des questions. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils ont besoin, finalement, tout simplement, d'être écoutés, d'être accompagnés, d'avoir quelqu'un à côté. Donc, c'est leur vie. Ils sont dans la vie, tout simplement. C'est vrai que nous, dans la société telle que vous nous présentez...
C'est vrai qu'on les voit comme étant en fin de vie. Mais...
on les présente comme des mois, alors qu'en fait, ils sont dans la vie, avec les problématiques de la vie qui se passent, certes, dans un milieu confiné qui est une chambre d'hôpital ou d'établissement, mais ils sont dans la vie.
L'inquiétude face à la mort, elle n'est pas présente?
Elle peut l'être, mais pas forcément. Elle, bien sûr qu'elle peut l'être, évidemment, mais pas toujours.
Oui, il y a des questionnements aussi par rapport aux familles, aux liens qu'ils ont avec les familles, qui sont soit du coup mis en difficulté ou au contraire, qui sont enrichis par cette épreuve. Voilà, il y a effectivement tout un tas de questionnements. Parfois, c'est vrai aussi, oui, la peur, pas forcément de la mort, mais la peur de la souffrance, la peur de...
Voilà, la peur de laisser?
Oui,
aussi. Oui.
J'imagine qu'on n'accompagne pas de la même manière, qu'on n'est pas présente de la même manière en étant près d'une personne d'un certain âge, près d'un enfant, quelqu'un, ou quelqu'un de plus jeune, une maman, c'est des choses difficiles.
Oui, c'est pour ça qu'il faut une formation, c'est pour ça qu'il faut un soutien, c'est pour ça que c'est indispensable de, d'avoir des bénévoles qui soient soutenus, formés pour accompagner les personnes. Toutes les situations peuvent être difficiles.
C'est quoi la formation pour être à l'ASP, l'accompagnement soins palliatifs?
Alors pour être bénévole d'accompagnement, la loi, puisque c'est le seul bénévolat qui est encadré par un texte de loi, la loi du 9 juin 1999 précise que les bénévoles doivent être sélectionnés. Donc ils ont un entretien de sélection, un premier avec des bénévoles spécialement formés pour ceci, puis avec une psychologue qui va s'assurer voilà, que ça ne mettra pas en difficulté.
Tout le monde ne peut pas devenir bénévole dans ce type de service.
Non, comme vous le savez, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions.
C'est
donc
vrai.
Non, on ne peut pas se permettre effectivement de prendre n'importe qui, n'importe comment. Dans
et ça dit quelque chose de l'importance de ce que vous êtes auprès de ces personnes.
Oui, c'est vrai. Je vous remercie, oui, parce que ça montre effectivement que la loi nous reconnaît et le reconnaît dans les établissements. S'il y a des établissements qui ont des lits identifiés soins palliatifs, des unités de soins palliatifs, c'est aussi parce qu'il y a des associations de bénévoles d'accompagnement qui ont une convention avec eux.
Donc une sélection, nous dites-vous, puis 9 mois, c'est
ça ? Puis 9 mois de formation, de modules effectivement qui interviennent en soirée ou parfois des samedis entiers, qui vont permettre un vrai parcours de formation. C'est-à-dire que le candidat bénévole qui commence cette formation va apprendre et va peut-être modifier aussi sa vision de certaines choses pendant tout ce parcours.
C'est vrai, vous êtes là depuis presque 15 ans, vous Dominique, mais peut-être que vous aussi Valérie. Vous êtes arrivée avec des idées préconçues, vous avez probablement découvert d'autres choses. Qu'est-ce qui vous, en quoi vous avez été modifiée, changée dans votre approche ?
Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que je suis arrivée avec cette envie de lien authentique, vrai, avec les patients. Et ça, ça n'a pas changé, j'ai toujours ce désir et je suis largement récompensée de ça.
Ouais.
Voilà. Ce qui change effectivement, c'est, et ça je ne l'imaginais pas lorsque je suis rentrée à l'association, c'est nous, c'est que nous on change aussi, c'est-à-dire qu'en fait on est on est obligé de s'ajuster tout le temps finalement et de travailler sur notre posture pour pas tomber dans le piège de l'emprise sur l'autre et de l'autre sur soi, dans le piège de l'interdépendance, etc. Et donc ça m'a beaucoup appris finalement sur moi.
Je vous vois opiner Valérie Revol.
Oui, c'est vrai, c'est un travail qui s'est fait tout au long de notre vie d'accompagnement et peut-être même plus après encore, parce que effectivement nous sommes aussi soumis à une obligation, j'ai envie de dire, de formation continue, de supervision, puisque nous avons une obligation d'appartenir à un groupe de parole une fois par mois aussi, et là ça permet de travailler tout cela, tout ce
on
qui peut se passe
déposer,
aussi en nous.
On peut déposer ce qui s'est passé, parce que quand vous fermez la porte, Dominique, on vous suit à nouveau, vous quittez le monsieur ou la personne avec qui vous étiez, vous ne lui dites pas forcément à la semaine prochaine, à ce monsieur, j'imagine.
Non, non, non. En fait, je les remercie. Voilà, je les remercie pour ce qu'il m'a donné, sa confiance, pour ce moment de partage. Et puis, je lui dis, écoutez, sans doute à une autre fois, je ne sais pas, voilà, mais...
Mais il n'y a pas de tragique.
Non, non.
On le sent dans ce que vous dites, c'est pas tragique.
C'est quelque chose de fort. Encore une fois, on accompagne le vivant. C'est parfois un vivant qui pleure, qui souffre, mais on accompagne le vivant. Voilà.
Et le vivant, vous en prenez soin. En tout cas, en prendre soin, c'est le thème de la journée qui a lieu à Toulouse le 11 mars. Ça sera de 10h à 18h, Square de Gaulle, rue Alsace-Lorraine. Développons la culture du prendre soin. C'est de 10h à 16h. Toute une journée, c'est ça, pour attirer l'attention du public, c'est ça, en un mot, Valérie Revol, cette journée.
Oui, c'est la journée mondiale des soins palliatifs. Alors effectivement, il s'agit, à travers ce thème du prendre soin, de montrer que tout le monde peut être, tout le monde est concerné. Alors là, nous avons fait un focus depuis la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Mais effectivement, les grands précaires à la rue, les enfants malades, les proches, les personnes handicapées, tout le monde est concerné. Donc on ira à la rencontre du public et nous leur proposerons effectivement de répondre à leurs questions aussi.
Et bien ça sera le 11 mars. Et puis vous avez un site, asp-toulouse.fr. Un immense merci à toutes les deux, même si vous récusez le terme de héroïne. Je me permets de vous en féliciter tout de même. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.